Du samedi 3 juin au vendredi 9 juin 2017, à 10h et à 13h, retrouvez sur Couleur FM les candidats aux élections législatives de la 6e et de la 10e circonscription de l'Isère. Ces émissions sont animées par Thierry Borde.
Couleur FM spéciale législative, nous continuons notre découverte des candidats des 6e et 10e circonscriptions de l'Isère. Nous recevons Frédéric Pénavert et M. Philippe Ofsepian, qui représentent le Parti communiste français et le Front de gauche de cette 6e circonscription de l'Isère. Voilà, merci beaucoup d'être venu et bonjour à vous.
Bonjour.
C'est une tradition, cette fois-ci, pour les législatives. Je vais vous demander chacun, à tour de rôle, de vous présenter, de nous dire qui vous êtes.
Donc, je suis conseillère municipale du groupe d'opposition de gauche à Bourgoin-Jallieu, responsable de la section du PCF également à Bourgoin-Jallieu. Voilà. D'un point de vue professionnel, donc, je suis psychologue de l'éducation nationale en charge du centre d'information et d'orientation de Bourgoin-Jallieu.
Eh bien moi, c'est pareil, je suis donc aussi membre du PCF et je suis également animateur de ce qu'on dit le mouvement social, puisque je suis délégué syndical à la centrale du budget et j'ai des responsabilités également à la Fédération nationale des mines et de l'énergie.
Autre tradition cette année, parce qu'on s'y retrouve assez moyennement dans tout ce contexte politique, et a laissé un paysage qui est un peu complètement éclaté tout autour, avec une recomposition, en tout cas une décomposition avant de se recomposer. Et voilà, j'aimerais avoir votre vision des choses, vous qui êtes situé donc à partir du Parti communiste français, et y compris voilà la situation du PCF dans ce contexte.
Au niveau des présidentielles, donc le PCF a soutenu la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Et moi, c'est ce que je retiendrai de cette élection présidentielle. C'est l'excellent score de Jean-Luc Mélenchon, qui a dépassé les 19,5 et qui aurait pu même être au deuxième tour des présidentielles. Donc, pourquoi le PCF a soutenu Jean-Luc Mélenchon? C'est d'une part parce qu'on partage bon nombre de propositions, hein, d'autant plus que le programme de Jean-Luc Mélenchon a été en partie écrit de façon commune en 2012 lorsque on a écrit le programme qui s'appelait L'humain d'abord. Voilà, donc nos motivations c'était ne pas diviser la gauche de radicale, je dirais, hein, la gauche de proposition. Et au contraire, essayer de faire un excellent score. Donc on n'a pas présenté de candidat communiste et on a porté tout notre soutien à Jean-Luc Mélenchon, qui d'ailleurs a pu se présenter grâce à tous nos élus qui l'ont soutenu.
Qui l'ont parrainé.
Qui l'ont parrainé, voilà. Donc voilà, pour le premier tour, moi je retiendrai effectivement cet excellent score. Après, recomposition, oui, puisque on voit bien l'éclatement du Parti socialiste avec une partie... qui soutient Macron, et localement on le voit aussi, hein, avec certains de mes camarades socialistes qui ont choisi de soutenir Macron.
Donc, vous en avez parlé au conseil municipal d'ailleurs, je crois.
Alors moi j'étais pas présente au dernier conseil municipal, mais on a fait une déclaration, oui, parce qu'effectivement c'est un peu problématique pour nous. Voilà, donc cette recomposition du PS. Mais pour nous, voilà, Macron, c'est un parti. C'est un parti, malgré ce qu'il dit. Comme d'ailleurs les Insoumis, c'est également un parti. Hein. Il n'y a pas de financement politique en France en dehors des partis politiques. Donc, ce sont deux partis nouveaux, effectivement, hein, qui essayent de s'implanter dans le paysage politique, ce qui est tout à fait légitime.
Ça participe au renouvellement, peut-être.
Voilà. Hein. Mais pour moi, voilà, Macron, c'est quand même une politique de droite, et c'est peut-être là-dessus dont on débattra.
Tout à l'heure, on va pas débattre, vous allez plutôt nous exposer votre vision des choses. Oui. Par contre, alors pour continuer, vous avez soutenu Jean-Luc Mélenchon pour les présidentielles. La France Insoumise, c'est un parti politique. Mmh. Et aujourd'hui, pour autant, vous vous présentez et voilà, presque partout en France, il y a des candidats du Parti communiste en face de candidats de la France Insoumise.
Oui, et franchement, je le regrette tout à fait. D'ailleurs, au présidentiel, moi, je militais, hein, je l'ai dit à beaucoup de personnes, je militais pour une candidature unique entre Hamon et Mélenchon. Je pense que là, il y avait vraiment une plateforme de propositions cohérentes, communes, et on aurait pu avoir une candidature résolument à gauche avec des écologistes, des communistes, des non-encartés.
Mathématiquement, ça aurait porté Jean-Luc Mélenchon presque, enfin, ou enfin, le porteur de cette unité en tête du premier tour.
C'est ça, donc c'était bien pour ça que je militais pour qu'il y ait une candidature unique, d'autant plus que les socialistes avaient... la primaire de gauche a désigné Hamon, qui est beaucoup plus proche de ce que je pense, moi, en tant que communiste, que, évidemment, Valls, Hollande, etc., qu'on a critiqué pendant tout le quinquennat pour de justes raisons.
L'unité à gauche, elle se fera jamais ?
Moi, je pense pas qu'on puisse dire qu'elle se fera jamais. On est en difficulté actuellement, ça, je vous le concède. Pour les législatives, je pense que là aussi, on aurait pu faire des candidatures uniques, notamment dans la 6e circonscription, où la droite et l'extrême droite sont très fortes. Moi, j'ai eu une fin de non-recevoir...
J'allais dire, vous avez essayé. Qu'est-ce qui bloque,
oui.
C'est le financement des partis, c'est quoi ?
Il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a déjà une volonté hégémonique de France Insoumise, c'est-à-dire que c'est pas des accords en fait, c'est si il faut qu'on décide nous de retirer nos candidatures et de signer la charte de France Insoumise et donc de partir sous la bannière France Insoumise. Donc bien sûr j'ai essayé, j'ai contacté Michael Haydine que je connais bien par ailleurs, et ainsi que sur la 10e circonscription on a contacté.
Nous en avons parlé aussi avec Thierry Monchâtre notamment.
Donc on a Michael Haydine pour la 6e.
Et Mehdi Sarraoui, oui.
Voilà, m'a dit tout de suite que il n'était pas question qu'on se rencontre, et que d'ailleurs ils étaient dans une démarche de faire un procès au Parti communiste. Enfin, vous savez, l'histoire de l'image récupérée sur un tract dans une circonscription. Enfin bon, c'était quand même assez c'est pas la hauteur du tout.
C'est la tambouille un petit peu politique.
C'est bien dommage. Voilà. En tout cas, moi j'étais prête à être soit suppléante, se mettre autour d'une table et puis avoir une candidature unique, bien évidemment.
Bien. Bon, les électeurs de gauche, donc, choisiront entre vous. Alors, revenons sur le fond des choses, c'est certainement ça le plus important. Une candidature aux législatives, ça sert évidemment à porter un message, celui de votre parti au niveau national, mais pas, notamment. Et sur des grandes thématiques, il nous reste un petit peu plus de 10 minutes de temps dans cette émission. On n'aura pas le temps de tout aborder. Maintenant, on va essayer de faire les choses principales qui vous tiennent le plus à cœur, en tout cas. Je vous propose effectivement de commencer par le prisme économique à travers peut-être votre position d'abord sur les institutions européennes, leur fonctionnement, qu'est-ce qu'on doit faire avec et quelle serait votre vision économique à partir de là.
Sur la question européenne, il est bien évidemment que ce qu'on remet en cause, et là on est là aussi on est prochain de Jean-Luc Mélenchon, de la France insoumise, etc. C'est ce qu'on constate, c'est un manque de démocratie au niveau européen. Donc il n'est pas question, en tout cas pour les communistes, de sortir de l'Europe, comme ça peut des fois être dit, mais c'est réellement de réorienter d'une façon plus démocratique les institutions européennes pour que les pays soient entendus et que les décisions ne soient pas prises à un niveau européen contre les nations. Actuellement, on a une Europe qui n'est pas une Europe sociale. Nous, ce qu'on demande, c'est une Europe sociale.
Et donc pour avoir une Europe sociale, il faut mettre, j'imagine, ensemble en œuvre des moyens institutionnels, donc changer effectivement le fonctionnement de l'Europe, comme vous le dites, et en même temps, pour autant, continuer d'un certain développement économique, donc dans l'Europe
bien,
tout
bien
de même.
Entendu. Oui, bien entendu.
J'ajouterais également sur cette question européenne, lorsqu'il y a une directive qui est mise, parfois les effets ne sont pas les mêmes d'un État à l'autre. Je dirais, quand la transposition se fait dans deux pays différents, ça n'a pas forcément les mêmes conséquences. Donc on ne peut pas dire que tout est noir et tout blanc dans le fonctionnement des institutions européennes, puisque sur certaines directives concernant justement les services publics, on peut voir dans un pays où certains vont privatiser le service public et l'autre vont quand même le conserver comme en tant que tel. Donc on peut voir qu'il y a aussi les volontés des gouvernements en place. Il n'y a pas que l'Europe sur qui on peut tout mettre. Il y a aussi les gouvernements en place qui ont leurs responsabilités. Bon, il y a cette politique d'austérité qui fait ses preuves, malheureusement, de déclin économique, déclin social. On voit bien avec le dossier de la Grèce. où on n'arrive pas à trouver des terrains d'entente pour rééchelonner la dette de la Grèce. Et puis, ces politiques d'austérité, elles ne font plus recette. On voit qu'elles ne marchent pas. Donc, il faut faire autre chose en Europe. Et puis, surtout, dans la question de la démocratie, c'est aussi de pouvoir, sur cette question, sortir du traité que l'on nous a imposé, malgré le vote que l'on a fait en 2005, je le rappelle, où plus de 50% des Français ont rejeté un traité que l'on nous applique. Donc il y a aussi le respect de la démocratie et aussi le respect de la parole qui est donnée. C'est-à-dire, une fois qu'on a interrogé l'ensemble des Français, c'est de respecter son choix. Et à partir de là, de rediscuter sur une nouvelle orientation des traités. Voilà, donc nous, on est d'abord sur ce terrain-là. Et après, effectivement, comme on dit, on consultera les Français à nouveau. Au moins, il me semble que c'est indispensable pour savoir comment réorienter l'Europe économique.
Donc, mais en tout cas, clairement, ce que vous lui reprochez, c'est d'être trop libéral.
Oui, voilà, c'est ça. Oui.
Tout à fait. C'est surtout bon résumé.
C'est bien résumé.
C'est d'être trop libéral, mais en même temps, aujourd'hui, même si on imagine que la gauche, bon, les sondages ne le disent pas, gagne les élections législatives, comment, enfin voilà, on a vu plutôt l'échec de la politique de François Hollande qui semblait avoir quelques velléités pour modérer certaines choses. Comment on peut faire? On a vu en Grèce ce qui s'est passé. Est-ce qu'un pays tout seul peut faire quelque chose pour modérer cette orientation libérale européenne?
Ah bah, c'est une question de volonté, déjà. On ne peut pas dire que M. Hollande avait la volonté, parce que lorsqu'on a voté pour, ou abstenu, je dirais même se coucher, devant le traité donc, de Lisbonne que nous a présenté Sarkozy, et qu'on a appelé à voter oui, justement, à la Constitution européenne, on ne peut pas dire qu'on va aller discuter ensuite pour la remettre en cause. C'est une escroquerie, déjà, d'entrée. Enfin, moi, je le vois comme ça. Donc il n'y avait pas de volonté véritable pour changer les choses. Donc maintenant, effectivement, quand il y a un gouvernement qui a la volonté de les changer, il peut les changer. Et puis, il se dit un peu partout, la France, c'est quand même la cinquième puissance du monde. Quand elle se met autour d'une table, il faut l'écouter. Et pas non plus s'aplatir devant je ne sais qui. Donc, ou
avec
je ne sais
la France,
quoi.
Ça marcherait mieux qu'avec la Grèce parce qu'elle est plus forte.
Bien, oui, elle a des responsabilités, la France. La Grèce est un pays qui est rentré. Après, la France, elle a toujours fait partie de l'Union européenne, d'abord l'Europe des Six. Après, elle a la responsabilité, bien sûr, de faire en sorte que les pays que l'on souhaitait rentrer le soient dans les meilleures conditions possibles, et surtout de les aider de la meilleure façon pour s'en sortir. Donc une dette, ça se rééchelonne, ça s'annule même sur certains plans, et on peut rediscuter à partir de là. Mais on voit que, justement, actuellement, ce n'est pas le cas. Puisque actuellement, le FMI et puis l'Europe ne s'est pas mis d'accord sur la dette grecque. Donc il n'y a pas de volonté, effectivement, de faire en sorte que les pays adhèrent dans une Europe qui les fasse progresser, et non pas qui les fasse régresser comme ça se passe aujourd'hui, avec tout le cortège. Je ne vous parle pas de la Grèce comme elle est aujourd'hui, mais au niveau sanitaire, c'est vraiment catastrophique. Il y a un Grec sur cinq qui ne peut pas soigner.
Philippe prenait l'exemple des nations, c'est-à-dire que l'Europe, ça ne dédouane pas effectivement de l'action des nations. Je prendrai un exemple concret. Les députés communistes, puisqu'on a dit, on a un groupe à l'Assemblée nationale, ont déposé une proposition pour créer ce qu'on appelle une COP 21 sur la finance. Puisque Hollande avait dit qu'il s'attaquerait à la finance. Vous dites qu'il avait des velléités. Je n'ai vu aucune velléité là-dessus, en tout cas.
C'était dans son programme. Hein.
C'était dans son programme, mais il n'y a rien eu de fait. Donc nous, on a déposé un projet pour l'existence d'une COP 21 sur la question de la fraude fiscale. Ça veut dire que tous les pays européens se mettent autour d'une table et trouvent des réponses sur comment on empêche cette fraude fiscale qui est quand même pour notre pays évaluée entre 70 et 100 000 milliards. Donc c'est quand même énorme.
Alors, côté économique, Emmanuel Macron compte visiblement bien intervenir sur le droit du travail qu'il juge très certainement coupable de ne pas favoriser le développement économique de la France. J'imagine que vous êtes parfaitement en désaccord.
On est parfaitement en désaccord. On a lutté contre la loi El Khomri, la loi travail. Donc en fait, les propositions de Macron, c'est dans la même veine, c'est-à-dire c'est de déréglementer. À partir du moment où on entend assouplissement du code du travail, je pense que les salariés peuvent commencer à s'inquiéter. Et donc l'idée de négocier dans les entreprises et l'inversion des normes, c'est-à-dire que ce n'est plus par branche que les négociations se feraient, mais au niveau de l'entreprise, c'est quelque chose qui est très dangereux et qui met le salarié en position d'infériorité. Et il y a bien d'autres articles d'ailleurs qui sont très inquiétants dans cette loi travail. Et donc effectivement, on sera les premiers dans la rue à empêcher qu'elle se mette en place. Et donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le gouvernement de M. Macron, c'est un gouvernement de droite, parce que la première chose qu'il va faire, c'est démanteler le code du travail, comme si c'était le code du travail qui provoquait les difficultés chômage, etc. Et la deuxième chose, c'est le CETA. C'est-à-dire qu'il est d'accord pour signer
les accords commerciaux entre la France et le Canada.
Voilà, qui ont des conséquences terribles, quoi, au niveau économique, mais aussi au niveau écologique. Bon, il faudrait plus que 20 minutes.
Oui, c'est un sujet compliqué.
Mais ça donne quand même la tendance et la couleur du gouvernement qui est en place.
Voilà, qui est à la suite globalement de l'Organisation mondiale du commerce, des accords généraux sur le commerce et les services, etc., et qui tente donc à une plus grande libéralisation des échanges autour du monde. Ouais. Vous avez parlé de COP21 pour la finance, mais alors la vraie COP21, c'était l'environnement. Enfin, la première. On a entendu notamment le président américain dire il n'y a pas longtemps que il aimerait bien se retirer de tout ça. Vous en pensez quoi?
C'est catastrophique. Hein. Ce qu'a dit Trump, je pense que quand même tout le monde s'est rendu compte de l'énormité de ce qu'il disait et puis des conséquences si effectivement les États-Unis sortent de la COP21. Après, moi je pense que l'environnement c'est transversal. Pour parler un petit peu quand même de nos territoires, parce que, c'est vrai que les législatives sont des élections nationales, avec des lois qui ont des conséquences, évidemment, sur tous les territoires. Mais on a aussi des problématiques, nous, que, en tant que futurs députés, on porterait. Et c'est vrai que l'environnement, c'est, c'est transversal. C'est-à-dire qu'il faut agir sur le logement pour que les logements soient plus écologiques et aussi qu'ils coûtent moins cher aux locataires ou aux propriétaires. Il faut agir sur les transports. Et alors là, je crois que sur notre circonscription, sur la 6e, on a quand même la problématique de la nationale qui passe devant Saint-Savin. Je pense que vous avez dû interviewer et être en lien avec le collectif, des habitants qui demandent à ce qu'il y ait une déviation. Ouais. Donc moi, je soutiens complètement ce qu'ils disent. Et puis en plus, ils mettent bien l'accent sur les problématiques, c'est-à-dire que si on fait des propositions à l'économie, on va déplacer les problèmes un peu plus loin et donc on réglera absolument rien du tout. Donc il y a la question de la déviation, il y a la question des transports collectifs qui fait que très certainement entre Saint-Savin, Saint-Chef et Bourgoin-Jallieu, il doit pouvoir y avoir un système de navette pour amener les gens vers la gare. Voilà, donc c'est une thématique moi qui me semble forte pour notre territoire, les transports.
Et si en plus il y avait des trains qui réussissent à rouler convenablement entre Grenoble et Lyon, voilà. Ce serait bien.
Voilà. Mais il y a aussi la ligne Lyon-Crémieux, c'est-à-dire celle qui fait Lyon-Mézieux, donc on transformait le tramway en tram-train, pour aller jusqu'à Crémieux, qui serait donc très important pour le département, d'autant que sur ce canton, qui est très enclavé, un transport propre et régulier serait nécessaire sur cette voie. Et puis, donc on nous oppose des arguments financiers qui ne tiennent pas la route. Un transport par rail transporte plus de personnes qu'un transport par route. Et puis c'est pas à cause des transports électriques qu'on roule à 70 quand il y a une alerte à la pollution.
Alors justement, oui, comme le temps passe très 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 vite, j'ai envie juste de vous dire, qu'est-ce que vous aimeriez rajouter comme mot de conclusion, qu'est-ce qu'on n'a pas abordé? Alors des tas de choses, mais est-ce que vous avez envie de souligner là maintenant?
Moi je dirais une chose qui me semble importante, c'est que la problématique, je pense, première des Français, c'est l'emploi. Et qu'actuellement, dire aux gens qu'on va créer des emplois en supprimant des postes de fonctionnaires, etc., c'est se moquer du monde. Que pour créer des emplois en France, il faut relancer l'industrialisation. Et ça, je pense que ça devrait être le thème phare de tous les politiques. Relancer l'industrialisation, ça veut dire empêcher les délocalisations, empêcher que les industries partent à l'étranger pour faire engraisser les actionnaires, et alors que ça tue l'emploi local. Et je prendrai un exemple d'une proposition que les députés communistes ont déposée à l'Assemblée, et contre laquelle d'ailleurs la droite et les socialistes ont voté contre, c'est ce qu'on appelle le droit de préemption pour les salariés, c'est-à-dire une entreprise qui ferme et qui est rentable, donc c'est le cas des COPLA. Donc c'est le droit de préemption, c'est-à-dire que les salariés sont prioritaires pour reprendre leur entreprise. Donc il y a des propositions qu'on peut faire comme ça, concrètes, qui aideraient les salariés. Et après, nous, voilà, je pense qu'il faut aussi, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. C'est quand même important.
Très bien. Mais écoutez, on vous remercie beaucoup, Madame Frédérique Ménavert et Monsieur Philippos Vépian. Je rappelle que vous êtes candidat sur la sixième circonscription de l'Isère pour le Parti communiste français. Merci beaucoup.
Merci à vous.